franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le camping en France.
Le campeur est un monsieur qui dort sous une tente en des territoires généralement peu ou pas peuplés, qui choisit de demander à l'habitant l'usage provisoire d'un bout de pré ou de bois, voire d'un coin de jardin.
Il y a un siècle, c'était la haute époque du camping. Né dans le monde anglo-saxon ou en Allemagne dans l'arc alpin, il s'est comme incarné en France. Près de 30% de nos concitoyens le pratiquent quand ils prennent des vacances. Pour 36 000 communes, nous avons près de 10 000 terrains d'accueil. Le camping, c'est ou ce fut un style de vie. Ce fut de suite et c'est encore une culture technique. Les campeurs cherchent et partagent l'innovation. Miroir de la société française, le camping est aussi un thermomètre de la pauvreté. S'il faut encore un chiffre, celui-ci, 100 000 personnes peut-être vivent aujourd'hui en permanence dans des caravanes, des mobilhomes et autres cabanes, faute de pouvoir se payer un vrai logement. On n'est plus là dans le tourisme, mais dans la précarité et à la lisière de la légalité. C'est d'ailleurs une des forces du camping. Il s'évade toujours de la législation qui ne parvient jamais à l'encadrer précisément. Olivier Siroste, bonjour.
Bonjour.
Il échappe aussi à l'observation. Ils ne sont pas tellement nombreux, les historiens, les sociologues du camping. Vous tenez
non,
prêt pour
non.
Les éditions du Seuil, une petite histoire du camping. Oui, ils ne sont pas nombreux.
Non, ils ne sont pas nombreux. En France, on peut dire que c'est vraiment très épisodique, hein, ce genre d'études. Ce sont même des études très globales, hein, dans l'ensemble. Alors que les sources anglo-saxonnes sont beaucoup plus riches.
Beaucoup des associations dont on va parler, qui ont porté le camping à ses débuts, avaient, si on regarde leurs publications, ce que vous avez fait dans votre travail d'archives, dans leur titre, le mot « plein air ».
Oui, oui, oui. Alors déjà, dans les années 40, Jean Hureau, qui était le rédacteur en chef de la revue Camping Plein Air, disait « le plein air, c'est beaucoup plus que le camping. Ce sera un réflexe un peu primitif qui envahit le corps de la midinette quand elle ouvre sa fenêtre et qu'elle commence à se préoccuper de ses plantes le matin. »
Ces réseaux, ces associations, on va remonter en amont, bien avant 1940, au début du XXe siècle. Vous trouvez qu'une d'entre elles les résume toutes, c'est le Camping Club de France qui vous a passionné.
Oui, le Camping Club de France est quelque chose de très intéressant puisque c'est une association qui va faire en quelque sorte la jointure entre le courant protestant anglo-saxon d'une part et d'autre part le désir laïque tout à fait français de rendre les vacances démocratiques accessibles à tout un chacun.
Alors ce Camping Club de France va croiser la route d'autres groupe, le Touring Club de France, très puissant, assez bourgeois, hôtel particulier du côté de l'avenue du Bois.
Oui, 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 oui. Alors, on peut dire, hein, sur ses origines associatives, quelques mots. La coopérative d'excursion, ce sont des jeunes protestants qui, à partir de 1903-1904, font des expérimentations de vie sous la tente à Fontainebleau, dans le bois de Verrières, et qui donneront naissance en 1910 au Camping Club français, premier club de camping en France. Et puis, pendant ce temps-là, le Touring Club de France crée une association, les Campeurs de France. Les deux vont se réunir sous le Front Populaire, on en parlera plus tard.
Mais j'ai découvert un personnage sympathique, c'est Jean Loiseau.
Oui, alors Jean Loiseau est quelqu'un de très intéressant dans son itinéraire. Il va s'adonner au scoutisme, il va faire partie de ces jeunes qui sont encadrés dans les caravanes du club alpin, hein, qui emmènent les jeunes, accompagnés par des instituteurs, faire de l'alpinisme et s'éveiller au camping sous la tente en alpinisme. Et puis, il va également essayer de s'installer au Racing Club de France et puis plus tard créer son mouvement de camping, hein, les Compagnons Voyageurs.
Et les Compagnons de la Bonne Humeur aussi.
Et les Compagnons de la Bonne Humeur. Et c'est quelqu'un qui insiste beaucoup sur la dimension simple et primitive de la vie au contact de la nature.
Oui, mais ça, c'est l'héritage du scoutisme. Vous avez bien fait de prononcer le mot scout parce que des éclaireurs de tout poil et des scouts vont pratiquer, bien sûr, le camping qui permet la régénération du corps, la lutte de l'esprit contre ses mauvaises habitudes et tout cela dans une nouvelle authenticité.
Paris, 25 000 scouts célèbrent le 25e anniversaire de leur organisation et acclame Lord Baden-Powell, créateur et chef mondial du scoutisme.
Continuez à pratiquer votre scoutisme pour la distraction et le plaisir que vous en retirez, mais pour la joie de lui consacrer tous vos efforts sous la forme de bonnes actions et d'amitié envers les autres.
Bande de petits enculés. Et le poulet qu'on m'a piqué, qui c'est qui va le payer? C'est vous, le chef?
Oui, je suis absolument navré, je n'ai rien vu.
C'est laquelle, votre tante?
La bleue, là. Non, 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 arrêtez! Je vais vous dédommager. Ça vous dérange pas, si on campe là?
Vous allez me foutre le camp, ouais!
Oui, oui, d'accord. C'est de bonne guerre. Bon, allez, les scouts, on lève le camp!
Je suis absolument navré, nous n'avons vu que des films qui ne manifestaient pas pour le camping une particulière empathie. Celui-ci, c'est le film de Junio. Il scoute toujours avec le choc des citadins et des ruraux, le fermier qui tire sur les malheureux enfants.
Oui, oui, oui. Alors Michel Lebris en parlait déjà aussi dans L'Homme au sommet levant, où il montre cette rencontre entre la France rurale et la France urbaine, hein, des vacanciers et des premiers touristes.
Bah, il faut dire que les jeunes gens, et notamment les jeunes filles, qui se lavent à l'eau claire à la fontaine du village, ça étonne.
Oui, oui, oui. Alors, et puis il se passe quelque chose, il y a une vraie révolution au niveau du corps, puisque les campeurs des années 1910-1919 sont encore largement vêtus, robe longue qui étend sur les pieds, costume complet avec col à tarte pour les messieurs, et puis on passe en sous-vêtements 10 ans plus tard. Donc là, il y a une vraie effraction oculaire, hein. Le regard est choqué, les bonnes mœurs sont choquées, et ce qui se joue sur les places des villages quand on se lave à la fontaine ou quand on arpente les rues d'un village, les jambes nues, en short, ça fait couler beaucoup d'encre, et il y a des plaintes déposées dans les commissariats, voire des gestes plus agressifs.
Heureusement, il y a des chefs, même s'ils ne sont pas tout à fait cohérents comme dans le film de Junio. Jean Loiseau lui-même, dont on parlait, le chef des compagnons de la bonne humeur, il avait des lieutenants, il organisait les choses de manière très militaire. Les frères Bonamo, qui ont publié le manuel du campeur du Touring Club de France, recommandaient une organisation qui préparait au fond l'homme au combat.
Complètement, complètement. Alors on a plusieurs héritages de tout cela qu'on peut retrouver à différentes époques. Le premier héritage, il est relativement simple, c'est que les personnes qui vont gérer les premiers campeurs sont des anciens de la coloniale. Hein, ce sont des militaires qui reviennent d'Afrique du Nord, qui trouvent des fonctions de garde champêtre ou de garde chasse, et qui se trouvent confrontés à ces populations. Puis on retrouve tout cela décrié ensuite dans la lutte entre l'hôtellerie classique qui voit dans le camping un concurrent très menaçant dans les années 1930, porté ensuite en caricature au cinéma. Alors ça commence par Une Belle, hein, qui fait tourner à De Funès Taxi, Roulotte et Corrida en 48, ou en 58, pardon, où là on a tous les clichés du camping populaire qui se dévoilent.
Mais attendez, vous allez trop vite, parce que moi j'en suis encore benoîtement aux années 30, encore que le témoignage qu'on va entendre date en effet de la fin des années 40. Il s'agit de vieux campeurs, parce qu'il y a le personnage du chef, un peu redoutable, et puis il y a le personnage emblématique du sage, l'enseigne aux vieux campeurs.
Ah, nous sommes des
vieux campeurs.
Ça fait 37 ans.
On nous considérait comme des Romanichels. Alors, à ce moment-là, il fallait descendre au pays avec des cochonnets pour tenir l'eau. Nous en avions un 10 litres et un de 23 litres. Et alors, on avait de l'eau pour la journée, en même temps, on faisait le ravitaillement. Mais ça avait un avantage qu'on était seul. On se mettait en bordure de la mer, n'est-ce pas, sur les galets, c'était des galets du côté du nord. Eh bien, ma foi, ça allait quand même. Nous étions toujours les mêmes, hein, on se donnait rendez-vous. On allait soit à Elisabethville, hein, soit...
On a été arrêtés partout, on a été dans la forêt de Compiègne, une allée à Pâques,
ah, oui.
Pas. Il y avait 3 cm de neige sur la tente. On n'a jamais fait un camping aussi beau.
Alors le garde s'est mis avec nous de la partie, il nous a permis de faire un feu de camp. Et on a fait un feu de camp jusqu'à minuit en buvant le vin chaud.
Pendant les jeunes dansaient, chantaient, etc. Puis on buvait le vin chaud. À 11h, vers les 11h, on faisait chacun sa boule d'eau.
Pour aller coucher.
Dans son lit. Et puis jusqu'à 9h du matin.
Le lendemain matin, on avait encore descendre pour cuire les pommes de terre en robe des champs.
Faire un feu n'est pas facile. Et Mathieu, quand on vient de la grande ville, et qu'il pleut, Caramari toc 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 l'on lève, Caramari toc 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 l'on l'a. Non, tu ne sais plus, tu ne sais pas Mathieu. Non, tu ne sais pas, tu ne sais plus Mathieu. Faire un feu.
Un refrain du journaliste communiste Paul Vaillant-Couturier. On est là maintenant à l'inflexion du Front populaire qui accentue certaines caractéristiques d'attitude critique de la vie quotidienne Que permet le camping.
Oui, alors il y a une critique, déjà une dénonciation de la vie urbaine, hein, avec les grandes maladies que l'Europe et la France vont arpenter. Hein, pensons à la grippe espagnole, à la tuberculose, hein, notamment, qui font beaucoup de morts. Et le camping, perçu par les médecins et puis perçu par ses animateurs, est vraiment un moyen de retourner à une vie naturelle, hygiénique, qui permet de couper avec les affres de la vie urbaine. Ça, c'est une donnée forte.
La tente magique, comme il y a la montagne magique contre la tuberculose. Paul Vaillant, couturier, les auberges de jeunesse. Il y a un groupe qui se constitue en 1937, à cette époque, qui subsiste aujourd'hui avec quelques 50 000 adhérents. C'est le GCU, le groupement des campeurs universitaires.
Alors le groupement des campeurs universitaires, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans cette utopie des vacances organisées par la voie associative. C'est le mode de l'autogestion, finalement, que l'on redécouvre dans les chalets d'altitude du club alpin ou que l'on va retrouver chez certaines amicales ouvrières.
On discute de tout, tous les soirs, entre instituteurs et professeurs, l'emplacement des latrines, l'équipement en papier hygiénique, etc.
Alors voilà, il y a donc une éducation à l'hygiène, hein, à la vie collective, et puis en même temps, il y a un éveil culturel, c'est-à-dire la leçon de choses dans la nature ou la leçon de choses dans une ville de province avec ses monuments historiques.
Et un hymne de l'espoir dans les yeux, nous serons radieux vers le bonheur dans l'air bleu. Enfin, il y a tellement de campeurs, et ça a tellement de succès, la première expérimentation du camping par les premiers congés payés, que dès 1939, on imagine un code du camping, lequel ne pourra se formaliser qu'après-guerre, effectivement, dans les années 1950. Ça va donner ceci, mais je vous laisse d'abord dire un mot.
Oui, on trouve quelque chose qui annonce tout cela en 1937, quand des hôteliers portent plainte contre des campeurs dans le Var et qui amorcent la législation du camping et ce code du campeur.
Et la nécessité donc de porter avec soi une licence qui vous différencie des campeurs sauvages. Ouais.
Pour être de parfaits campeurs, il ne suffit plus de posséder un short, de bonnes jambes et quelques bidons. Il faut désormais se plier au règlement et se munir d'une carte d'identité, d'une licence de camping, d'une police d'assurance contre l'incendie d'une valeur de 5 millions et d'un récépissé de... Est-ce que ça suffira, monsieur le garde-champêtre ?
Eh oui, maintenant je peux vous montrer le cadre idyllique que notre municipalité vous réserve.
Et maintenant, pénétrez-vous bien de l'esprit du code du campeur licencié.
Veillez à la proximité des points d'eau. Ne plantez pas votre tente sur un terrain en pente. Ne vous installez pas auprès d'une voie de chemin de fer.
Il suffit parfois d'un souffle. N'imitez pas ces errants perpétuels qui n'ont pas su mettre en pratique les sages conseils que nous voulons de vous donner. Dormez paisible sous l'étiquette du campeur officiel.
Il n'y a plus de merguez.
Non, on a tout bouffé.
Ah, c'est con.
Et les filles, sinon ? Les filles, elles sont rentrées, là. Tu sais jouer de la guitare, toi ?
Ouais.
Bah, vas-y.
Ouais, attends.
C'est une maison...
Non, pas celle-là.
Bah, on improvise tous ensemble ?
Ouais, bon, ok.
Allez, on va 3-4, on commence.
Ah, d'accord.
3-4. Dans les feux de camp, il y a toujours une chanson d'Émile. Avec un mec qui fait la tierce, un abruti qui tape dans ses mimines, et un feu qui enfle des caisses. Mais si jamais il y en a un qui sort son harmonica, l'autre une grande flûte en bois. Dans les feux de camp, il y a toujours une chanson débile qu'il faut arrêter tout de suite.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Ouais. Non, on a bien fait d'arrêter. Hein.
Avec Olivier Sirost, le camping en France. Alors vous avez noté, Olivier Sirost, qu'on a changé carrément de période là et qu'on n'est plus du camping qui était une critique en action de la vie courante, mais qu'on est passé du côté du camping pratique touristique de masse. Vous faites du camping vous-même ?
Oui, je continue à en faire. Parce que
vous continuez, vous avez commencé quand ?
Bon, j'ai retrouvé des photos de moi quand j'étais bébé, où mes parents m'emmenaient en camping. Donc j'ai commencé
très tôt. Ça nous mettrait
à
quelle époque, sans être indiscret ?
Alors ça nous met dans les années 68-69.
Et déjà avant, le changement s'était opéré avec la multiplication des des campeurs et puis aussi avec la motorisation des campeurs. Vous ne partiez pas avec vos parents à pied, en vélo,
non, on
en
partait,
tandem,
on partait déjà en automobile et c'était le début vraiment de la multiplication des grandes tentes carrées où là on pouvait quasiment se tenir debout. Hein, où le slogan c'était « camper n'est plus ramper », mais pouvoir se tenir debout sous la tente. Alors ça, c'est un matériel qui va aussi, hein, qui nécessite une voiture pour pouvoir le transporter, mais qui va changer la donne. Hein, sur
Parlez-nous des tentes, de leur poids, de leur toile.
Alors, les tentes, les premières sont expérimentées, on l'a vu, hein, dès la fin du 19e siècle. Elles sont très lourdes. On a souvent des tentes coloniales, quand on veut camper en famille, qui pèsent 40 kilos, qui fuient, qui sont irrespirables la nuit. Et puis dans les années 30, avec les expéditions à l'Himalaya, on met au point, les fabricants de tissus mettent au point un tissu transpirant, quasiment Gore-Tex, comme on pourrait dire aujourd'hui, qui garde la chaleur à l'intérieur, mais qui laisse passer l'air et qui est complètement imperméable. Alors ça, c'est une première évolution avec le duralumine, hein, un alliage de métallurgie qui ne s'oxyde pas, qui est très léger à transporter. Et puis ces tentes carrées qui apparaissent à la fin des années 50 et la caravane qui vraiment va beaucoup se développer dans les années 70 et début des années 80.
Mais alors la tente qui isole de la neige ou bien la tente qui isole de la chaleur, vous me direz que les origines lointaines du matériel de camping sont à chercher du côté du monde colonial.
Oui. Déjà, dans les comptoirs orientaux à destination des Indes, les Anglais mettent au point ce matériel-là. Donc ça nous ramène au moins au XVIIIe siècle.
Mais les Anglais et les Anglo-Saxons sont moteurs dans la technique ?
Ils sont moteurs dans la technique parce que ce sont les premiers à formaliser tout cela sous forme d'officines, hein, de boutiques spécialisées, qui ont des contrats privilégiés avec l'Empire britannique.
Mais nous, en France, nous avons dès 1937 une chambre syndicale des fabricants en matériel de camping. Nous avons dès 1950, un salon des sports et du camping. Et vous le saviez, mais vous ne l'aviez jamais entendu, nous avons aussi à la Radio Nationale une émission spécialisée qui s'appelle « Sport et camping ».
Sport et camping, une émission d'Albert Sima présentée par Bernard Blin et l'auteur.
Et voici Claude Méret, qui aujourd'hui nous parle des cadeaux dont rêvent les campeurs.
Commençons par le moins onéreux. Éclairage du campeur, lanterne pliante et chandelier réflecteur pour la bougie qui a encore bien des partisans. Lampe frontale, torche.